Et bonjour à tous et à tous, bienvenue sur FL Radio et dans Sport 360, l'émission où le fait le tour complet du sport. Et aujourd'hui, exceptionnellement, c'est moi Enzo qui vous accompagne pour ce Sport 360. Et avec moi autour de la table, Kevin.
Salut Enzo.
Et Ellie.
Bonjour Enzo.
On va parler sport, foot, basket, un peu de vélo. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise, que vous soyez dans la voiture, au boulot ou à la maison, et en route pour un panorama de l'actualité sportive. Yeah. 2 de la mañana en el club, todo el mundo pasando la cabrón, la mujer encima de mí. La juca, la pastilla y un blon. La que yo quiera dice que sí. Bien loco cantando la canción. Después de aquí nos vamos pa'. ¿Qué estará haciendo mi ex? Que hace tiempo por ahí no se ve. ¿Será que ya me superó? Hace tiempo por ahí no se ve. ¿Será que ya me superó y le va bien? Mientras que yo, borracho, pienso. ¿Qué diablo estará haciendo? ¿Estará jangueando? ¿Estará durmiendo? ¿Estará fumando? Por dentro, la disco está llena y yo la vacía. Porque no está la nena mía con la que yo siempre me reía, con la que yo siempre me venía, con la que yo hablaba todos los días. Y ahora no sé nada, y ahora no sé nada. Ay, ¿qué estará haciendo mi ex? Que hace tiempo por ahí no se ve. ¿Será que ya me superó? Et c'était Bad Bunny, El Club. Quoi de mieux qu'un petit taré à Puerto Rico avant d'arriver aux États-Unis à sa Coupe du Monde, parce qu'elle continue encore, et les histoires aussi, du jamais vu depuis 1962. C'est le séisme politique et sportif qui secoue cette Coupe du Monde 2026, l'affaire Follarin-Balogun. Du jamais vu donc depuis 1962. L'attaquant star de l'équipe américaine reçoit un carton rouge direct en 16e de finale contre la Bosnie. Le motif, un vilain geste du pied sur la cheville d'un adversaire. après un duel aérien validé par la VAR, le règlement de la FIFA, qui indique qu'un carton rouge, c'est égal à une suspension automatique pour le match suivant. C'est la règle. Elle est la même pour tout le monde, sauf que nous sommes aux États-Unis et l'histoire bascule dans la quatrième dimension. Donald Trump en personne s'en mêle. Le président américain décroche son téléphone. Il appelle directement le patron de la FIFA, Gianni Infantino, pour crier à l'injustice. Et devinez quoi, ça marche. Dans la foulée, la commission se discipline. Elle transforme la suspension ferme de Balogun en un match avec sursis. L'attaquant est requalifié en urgence pour le choc face à la Belgique. Derrière les micros, c'est l'indignation générale. L'UEFA crie au scandale et accuse la FIFA d'avoir franchi une ligne rouge en cédant à une ingérence politique flagrante. La fédération belge stupéfaite tente même un recours de dernière minute. Finalement, il a bien joué, mais l'histoire se termine par un immense retour de karma parce que la Belgique a balayé les États-Unis 4-1 sur le terrain. La vérité du sport a parlé, mais une question demeure. Le football peut-il encore prétendre à l'équité quand un coup de fil de la Maison-Blanche suffit à réécrire les règles? Alors, petite question pour toi, Ellie. Est-ce que tu penses que des coups de théâtre comme ça, politiques, on va en revivre maintenant que Trump a un peu ouvert la voie?
Trump est un peu dégénéré du cerveau, alors j'espère que non, parce que c'est tout de même un véritable abruti qui veut simplement faire gagner son pays. D'ailleurs, je pense qu'il a fait un pari avec la NASA il n'y a pas très longtemps. Donc il fait tout, il s'arrange, il essaie de modifier la règle, et au final, heureusement que la Belgique a été avec nous pour contrer le sort contre lui. Et ça, c'est bien fait pour les États-Unis.
Et les coups de karma, comme ça, on a quelques-uns. On en reparlera un peu après de ce match France-Paraguay, même s'il y a eu aussi des suites. On reste dans les coulisses électriques de cette Coupe du Monde 2026, mais cette fois pour une affaire bien plus sombre qui dépasse largement le cadre du sport, le choc textuel politique entre Kylian Mbappé et une sénatrice paraguayenne. Tout commence sur le terrain en 8e de finale. La France bat difficilement le Paraguay 1-0 grâce à un pénalty de son capitaine. Un match rugueux, tendu, mais le vrai dérapage, le tacle ignoble, il a lieu juste après le coup de sifflet final sur les réseaux, sur X ou Twitter anciennement. Céleste Amarilla, une sénatrice de l'opposition paraguayenne, publie une série de messages d'une violence inouïe. Je cite, cet abruti n'a même pas appris à écrire. Au lieu du lait maternel, il suçait des noix de coco. Ce qu'il a entendu de plus instructif, ce sont des chimpanzés. Fin de citation du racisme pur, décomplexé, envoyé par une élue de la République paraguayenne devant des millions d'internautes. La réponse du capitaine des Bleus ne s'est pas fait attendre. Mbappé a pris son téléphone pour recadrer la sénatrice de manière cinglante. « Madame, vous êtes une femme méprisable et indigne de votre fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay, ce pays qui a sué de passion et d'honneur. » Depuis, c'est une tollée internationale. La ministre des Sports français s'est dite scandalisée par ses propos abjects. La Fédération française de football a immédiatement saisi le procureur de la République pour engager des poursuites judiciaires. Et même Gianni Infantino, le patron de la FIFA, a condamné fermement ces attaques. Le gouvernement paraguayen, totalement embarrassé, a immédiatement publié un communiqué pour se désolidariser de sa sénatrice, affirmant que ses propos ne reflétaient en rien les valeurs du peuple paraguayen. Il y a déjà eu une autre réponse sur les réseaux de cette sénatrice qui a dit, après avoir retiré son message, a essayé de retourner la faute sur Mbappé en disant que elle aimait la France, qu'elle n'était pas raciste, etc. Et qu'elle, comme elle l'a fait, avait retiré son message. Elle demandait à Kylian Mbappé de retirer le sien et de lui présenter ses excuses. Je pense qu'elle va juste se prendre un énorme vent. Il a parlé, il a très bien parlé. Et ça se retrouve maintenant entre les mains de la justice. La France est qualifiée pour les quarts de finale face au Maroc. Mais ce triste épisode nous rappelle qu'en 2026, même au sommet du football mondial, le racisme reste un fléau tenace que les joueurs doivent affronter sur le terrain comme dehors. On va faire un petit retour sur ces matchs de la semaine dernière. Donc, le 30 juin, on a eu Côte d'Ivoire-Norvège. Donc, 2-1 pour la Norvège. France-Suède, 3-0 pour la France. Mercredi, Mexique-Équateur, 2-0 pour le Mexique. Angleterre-République dominicaine du Congo, démocratique, pardon. Angleterre 2, Congo 1. Belgique-Sénégal, 3-2 pour la Belgique. Jeudi 2 juillet, États-Unis-Bosnie-Herzégovine 2-0, Espagne-Autriche 3-0 pour l'Espagne. Vendredi 3, Portugal-Croatie 2-1 pour le Portugal. Suisse-Algérie 2-0 pour la Suisse. Et Australie-Égypte 1-1 qui s'est fini au tir au but 2 à 4 pour l'Égypte. Samedi 4, Argentine-Cap-Vert. C'est la fin du rêve pour le Cap-Vert après une très belle compétition qui s'incline 3 à 2. Élie, je crois que tu as un petit mot à dire sur ce parcours du Cap-Vert.
Le Cap-Vert, c'est une des plus grandes surprises de cette Coupe du Monde parce que, comme il y a 48 nations, il y en a beaucoup qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et le Cap-Vert, qui est une toute petite nation africaine, a été la plus grande surprise parce qu'elle a réussi à se qualifier pour les 16e de finale, cette petite nation, après avoir enchaîné les matchs nuls contre l'Espagne. C'est le match que je retiendrai sûrement le plus de toute cette Coupe du Monde, qui est pourtant sûrement le grand favori de la compétition. Alors, le Cap-Vert, c'est dommage que ça s'arrête là et que ce soit tombé sur l'Argentine, mais tout de même, je retiendrai ce beau parcours.
C'était un très beau parcours et beaucoup de déçus. On a vu beaucoup de gens soutenir le Cap-Vert sur les réseaux et même dans les rues. Petite anecdote pour ce gardien qui a été juste exceptionnel. Il a dépassé un grand nombre de stars sur les réseaux en termes de followers, dépassant par exemple le français, le basketteur Victor Wembanyama, ou même le nombre d'abonnés de Michael Jackson ou de Mike Maignan. Vraiment, il a su conquérir les cœurs de tous les fans de foot et même plus. Ensuite, ce samedi, nous avons aussi eu Colombie-Ghana, donc 1-0 pour la Colombie. Canada-Maroc, le Canada qui s'incline 3-0. Paraguay-France, donc le fameux match de la bagarre du dur pour la France. Ça a été vraiment un match dur à regarder, franchement. C'était pas du tout du beau jeu comme on aime bien le voir, comme on a l'habitude de le voir. Ça a été aussi un match très critiqué sur l'arbitrage, mais la France s'en sort avec grâce à un penalty marqué par Mbappé. Donc on continue la compétition avec la France et malgré les altercations avec la sénatrice, on souhaite quand même au Paraguay de rentrer tranquillement chez eux et de se préparer pour les prochaines compétitions. Ce dimanche, il y a eu Brésil-Norvège, exploit de la Norvège qui sort un des piliers pour sa dernière Coupe du Monde. Ça finit sur 2-1 sur un doublé d'Erling Haaland. Et donc, c'est Neymar Junior qui met donc fin à sa carrière internationale sur ce match. C'est une ère complète qui se finit sur ces jours avec Neymar qui s'incline et qui. On l'a vu pleurer à la fin du match, c'est toute une ère, c'est beaucoup de gens, beaucoup de fans qui sont déçus, attristés. C'était aussi décevant pour les fans parce qu'il n'a joué que du coup pendant ce match moins d'une trentaine de minutes de toute la compétition. Mais l'entraîneur aurait dit au moment de le faire rentrer, donne tout fais tout ce que tu peux pour essayer de renverser le match. Ça n'aura pas fonctionné. Mais ça a été un match très intéressant à suivre et surtout c'est Erling Haaland qui lui brille de mille feux après avoir éteint la lumière de Neymar. Et hier, ce lundi, le 6 juillet, Mexique-Angleterre, c'est 3-2 pour l'Angleterre et un match qui m'a fait mal, qui était dur à regarder, Portugal-Espagne, encore une fois à la fin d'une ère, Cristiano Ronaldo s'éteint. Face à l'Espagne, je pense que c'est un mal pour un bien, puisque Ronaldo était un peu, selon moi, la cause de la non-évolution du Portugal malgré un effectif exceptionnel sur le papier. C'est l'Espagne qui l'emporte avec un but à la 92e. C'était dur à vivre, mais félicitations à l'Espagne. Et mardi, donc mardi ce matin, mardi 7 juillet. La Belgique l'emporte donc sur les États-Unis, donc après ce coup de fil pour retirer un carton rouge qui n'aura finalement pas servi à grand-chose. La Belgique l'emporte sur les États-Unis 4 à 1, un beau score qui prouve que la Belgique, après avoir eu des matchs durs et avoir eu du mal, ils peuvent surmonter ces phases et hâte de voir jusqu'où ils pourront aller. Et on va passer au prono de FL Radio avec les matchs à venir pour les huitièmes de finale. On a Argentine-Égypte. Kevin, qu'est-ce que tu penses qui va se passer pour ce match?
Alors pour l'Argentine, je vois une victoire nette et précise 2-0.
2-0, d'accord. Et toi, Ellie?
L'Égypte, c'est tout de même pas n'importe quelle équipe. Ils ont tout de même une très bonne attaque. Donc, je dirais 3-1 pour l'Argentine.
Moi, je vais faire un petit mix des deux et je dirais 2-1. Voilà, je me mouille pas trop, mais je pense que l'Argentine passera. Elle est quand même favorite. On a aussi Suisse-Colombie. Alors, je vous écoute pour vos pronos.
À la Suisse, victoire de la Suisse de Buzyn.
Victoire de la Suisse de Buzyn après prolongation.
Eh bah, ben, je vais aller à contre-pied, mais j'aimerais bien. C'est plus j'aimerais voir que j'y crois. Mais je vais dire 2-1 pour la Colombie, parce que j'aimerais voir cette équipe monter un peu plus. Et on passe au quart de finale. Donc après, il y en manquera un donc, entre le vainqueur Argentine-Égypte et Suisse-Colombie. Mais on a les trois autres matchs. Jeudi 9, je pense que vous êtes déjà tous au courant, que vous avez peut-être préparé votre soirée. Mais jeudi 9, la France affrontera le Maroc pour un superbe match. Ellie, qu'est-ce que tu penses de ce match?
Que des attaques exceptionnelles. D'un côté comme de l'autre, ça va être la revanche du Maroc après la défaite 2-0 en 2022. Des attaques exceptionnelles, des défenses exceptionnelles. 3-2 pour la France.
J'aime beaucoup. Beau scénario.
2-0 pour la France.
J'aime aussi, mais moi je dirais un beau... Alors vous allez dire que peut-être je vois trop de buts, mais j'aurais bien dit 4-2 pour la France. Je vois bien le Maroc réussir à bien attaquer et la France remonter plus tard. En tout cas, c'est un match que j'attends beaucoup. Je suis sûr qu'il va être exceptionnel, contrairement à quelques matchs qui ont pu être ennuyants ou alors très violents, très hors du jeu et pas très fair-play. Petite pensée au match contre le Paraguay. Mais hâte de voir ça. Et ensuite, on a Espagne-Belgique. Ellie, qu'est-ce que tu penses que va être ce résultat?
3-1 pour l'Espagne, parce que la Belgique est une très bonne équipe, mais l'Espagne est au-dessus de tout.
Et toi, Kevin?
2-1 pour la Belgique.
Ah, il est compliqué cette affiche. Hein.
Ne jamais sous-estimer l'Espagne. D'ailleurs, je suis étonné que l'Espagne ait gagné que 1-0. Ils auraient très bien pu gagner 2, voire 3.
J'ai sous-estimé la Belgique et face aux États-Unis, ils ont quand même mis 4-1. Donc, s'ils sont sur cette lancée, après, il y avait peut-être la haine de cette injustice du carton rouge retiré, tout ça. Mais je vais être dans le neutre et je vais dire un partout et que l'Espagne passe au tir au but. Voilà pour moi. Et samedi, le dernier match qu'on connaît, Norvège-Angleterre. Kevin, petit prono.
Angleterre 1-0.
Et toi, Ellie?
Angleterre 3-2.
Je vois bien...
La Norvège est tout de même assez époustouflante lors des derniers matchs. Ne jamais sous-estimer Erling Haaland et Martin Odegaard. 3-2.
C'est deux équipes qu'ils ont montré beaucoup, qu'ils ont vraiment donné. Et encore l'Angleterre avec cette victoire. Donc, j'ai envie de voir la Norvège passer, histoire de changer un peu ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, je vais dire 2-1. Voilà pour les pronos d'FL Radio. Et on se fait une pause musicale avec la Bomba de Los Loros. Thank you. Et on continue aux États-Unis. On commence ce tour du basket avec les news NBA. Alors que ça se calme un peu quand même au niveau des transferts, les Lakers perdent encore après le départ annoncé de LeBron, même si on ne sait toujours pas où il va et que les rumeurs se concentrent sur trois équipes, les Warriors, qui ont de l'argent et un Stephen Curry toujours au top à proposer, les Timberwolves qui, eux, ont ce que LeBron pourra apporter avec son expérience, aucun titre remporté. Ou alors, ce qui fait un peu le plus parler depuis quelques jours, un retour aux Cavaliers. Et ça serait juste exceptionnel de revoir LeBron là où tout a commencé et finir avec une belle boucle. Maintenant, pour les Lakers, c'est au tour de Rui Hachimura de s'en aller vers d'autres horizons et de signer aux Clippers. Un autre trade qui fait du bruit, c'est Jaylen Brown échangé aux Sixers contre Paul George, deux joueurs de renom qui changent d'air, et aussi DeMar DeRozan qui a été coupé par les Kings, donc on n'a aucune info de s'il va signer quelque part ou alors pas du tout, mais c'est une saison qui risque d'être très très spéciale et les équipes vont devoir tous se reconstruire, ce qui va être un bon boost de début de saison pour les équipes comme les Spurs, qui pour l'instant n'ont toujours pas fait de trade pour changer leurs 5 majeurs. Ça va être une saison compliquée pour beaucoup d'équipes. Se reconstruire, on sait que c'est compliqué, mais miser sur des joueurs plus jeunes, essayer de reconstruire une dynamique avec un nouveau, avec un ancien joueur qui a de l'expérience, c'est peut-être ce qui manque à certaines équipes. On verra si ça a été des transferts. On verra au cours de la saison si c'est des transferts utiles ou non. Et pendant que la NBA s'arrête, c'est la Summer League qui prend le relais et elle va tester une nouvelle règle qui pourrait voir le jour en NBA. En fonction de la faute, les lancers francs pouvaient aller de 1 lancé, 2 lancés ou 3 lancés qui valaient 1 point. Donc si vous mettiez les 3 sur 3, vous aviez 3 points. Et bien là, en fonction de la faute, dans tous les cas, il n'y en aurait qu'un seul à tirer qui voudrait valoir 1, 2 ou 3 points en fonction de la faute. Ce qui pourrait un peu renverser le côté stress du tir ou alors justement l'accentuer. C'est une règle qui va être testée cette saison de Summer League et on le saura à la rentrée si elle sera acceptée ou non. On part un peu des États-Unis, on part côté Coupe du Monde. On a eu des nouvelles des U17 qui ont vraiment donné et joué leur jeu. Mais ça n'aura pas suffi à se hisser en haut du tableau et finit 5e de cette Coupe du Monde derrière la Turquie et sur le podium en bon 3e l'Australie, en 2e la Serbie et sans surprise les USA en 1er. Mais nos bleuets ont vraiment tout donné avec un dernier match exceptionnel de Nathan Soliman, celui que je vous invitais à suivre là il y a une ou deux semaines, je ne sais plus. Avec un match très solide, 37 points, 12 rebonds, qui permet de battre le Canada et de se hisser donc à cette 5e place. Ici, on sort des U17 et on passe sur le tableau principal. Et les qualifications de la Coupe du Monde 2027 commencent avec deux matchs pour les Bleus. Ces matchs contre la Belgique et la Finlande. On a le droit à une liste des Bleus que j'ai beaucoup aimé. Dans les meneurs, on a Sylvain Francisco, Nadir Ifi, mon chouchou, et Mathieu Strazel, les deux adversaires de cette finale Betclic Elite entre Mathieu Strazel, Monaco et Nadir Ifi, Paris Basket. Mais sur le terrain, quand il s'agit de porter ce maillot bleu, vous inquiétez pas, tout se passe bien entre eux. En arrière et ailier, on a Gérald Ayaï, Bilal Koulibaly, tout droit... revenu tout fraîchement après cette saison en NBA. Luwawu Kabarro, Adam Mokoka, Eli Okobo et aussi son compère Zachary Risacher, le compère de Koulibaly, qu'ils ont rejoint l'NBA la même année. En intérieur, on a le nouveau capitaine de cette équipe de France, Rudy Gobert. Lui qui a beaucoup d'expérience et qui fera, j'en suis sûr, un superbe capitaine. Jalen Howard, Amin Noah, Maxime Rayo, Nel Sacco et Gershon Niabouzélé, le fameux dunker fou sur LeBron pendant les JO. Et ces matchs sont passés, donc je vous fais ce petit résumé. Face à la Belgique, la France l'emporte 72 pardon, pour la France grâce à un Bilal Koulibaly performant et très inspiré. Et mardi 6, c'est la France encore qui s'impose 98-69 face à la Finlande, mené par un superbe trio Okobo, Reno et Francisco avec 46 points ensemble. Et parce que dans ce mondial, on retrouve aussi des têtes qu'on connaît bien, c'est le Serbe Nikola Jokic qui écrase la Suisse 97-73 avec un super match à 22 points et 14 rebonds. Et on se fait encore tout de suite, avant de passer au cyclisme, une pause musicale avec Sao Paulo de The Weeknd.
Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode a Laricinha. O novinho me olhou e quis comer minha pepequinha. Hoje eu vou dar pro novinho, fode, fode a Laricinha. Every time I try to run you, but you lose your love on me. I surrender at your feet, baby, put it all on me. Every time I try to bring you, when you got me on my knees. I surrender at your feet, baby, put it all on me. I love it when you turn me on. I love it when you turn it on. Turn it on when you turn me on. Turn it again, it's all we know. Bota na boca, bota na cara, bota onde quiser. O nome.
Et on passe à la page cyclisme de ce jeu, de ce sport 360 avec le gros coup de chaud sur les routes du Tour de France 2026 après un grand départ historique. Depuis Barcelone, la grande boucle a officiellement passé la frontière française lors de la troisième étape hier et un homme a déjà décidé d'assommer la course. Tadej Pogačar, le Slovène, s'est imposé en patron au sommet de la station des Angles. Une victoire aux allures de briseur de rêve puisque sa formation, l'Armada UAE, a roulé à un train d'enfer toute la journée pour avaler l'échappée et offrir le bouquet à son leader. Résultat des courses, il fait coup double et dépossède déjà son grand rival Jonas Vingegaard du maillot jaune. Mais le coup de tonnerre de la journée d'hier, c'est un abandon de poids. Le sprinter belge Arnaud Delis a mis flèche à gauche en immense difficulté dès les premières pentes. Le taureau de l'Escherré a vécu un calvaire avant de poser pied à terre. C'est déjà le premier gros coup dur pour la Lotto Intermarché. Côté français, en revanche, la lumière vient de la jeunesse. Le jeune néo-pro Paul Sexas, tout juste 19 ans, réalise un début de tour absolument bluffant sous les couleurs de Decathlon AG2R. Il s'est accroché aux favoris dans les Pyrénées et pointe déjà à une incroyable quatrième place au classement de l'étape. Aujourd'hui, place à la quatrième étape, 182 km, accidentée entre Carcassonne et Foix. Une journée promise aux baroudeurs à travers les cols de Coudon et Montségur, à moins que la formation Lidl Trek ne décide de cadenasser la course pour Mads Pettersen. Les favoris, eux, pourraient s'accorder une petite trêve avant de très hautes montagnes qui arrivent à grands pas. Et on se fait une dernière pause musicale qui va nous rappeler les équipes qui parlent portugais de ce mondial entre le Brésil, le Portugal. On se laisse avec un grand classique des soirées, Dança Kuduro, Don Omar et Lucenzo.
Cudo.
Et voilà, c'est la fin, c'est ici que se clôture ce Sport 360. Cette musique que vous avez entendue, elle respire l'été, il fait chaud, le soleil est de retour à son paroxysme. Hydratez-vous, restez chez vous, regardez le foot chez vous ou dans les bars, il y a de quoi s'hydrater aussi. Pronostiquez avec nous sur la suite de la Coupe du Monde et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Sport 360. Vous pouvez nous écouter sur notre site en podcast ou alors en direct sur le site et vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Twitter, Instagram, Facebook et on se retrouve très bientôt pour un nouveau Sport 360 sur FL Radio.